et pour finir. Bienvenue dans ces pages qui prolongent et complètent mon roman, mais qui, bien au-delà, m'offrent surtout l'opportunité de m'adresser à vous autrement. J'aime vous y retrouver. Voici venu le moment de vous confier l'histoire derrière l'histoire. Cet ouvrage a progressivement pris forme pendant de nombreuses années, et son développement s'est accompagné d'une multitude de clins d'œil du destin. Je ne suis pas superstitieux, et mes livres précédents ont souvent donné lieu à de jolies conjonctions. Cependant, cette fois, je l'ai vécu un peu plus personnellement. Il pouvait s'agir de petits détails, comme le fait que j'habite près d'une église Saint-Leu, Saint-Gilles, mais pas uniquement. Beaucoup des sujets qui me passionnent depuis toujours se sont assemblés de façon étonnante autour de cette aventure. Le plus émouvant de tous les signes, c'est pourtant à vous que je le dois, plutôt à l'une d'entre vous, croisée au matin du 21 février 2019, alors que je me trouvais à l'église Saint-Pierre de Montmartre pour les besoins de l'intrigue. L'endroit est attachant, passionnant, et j'aime l'atmosphère qui y règne. Il était encore tôt, et je venais d'y passer un long moment à étudier et à ressentir. Comme souvent lorsque je me trouve dans une enceinte sacrée, quel que soit le culte qui s'y pratique, j'ai pour habitude d'y avoir une pensée ou d'allumer une bougie pour ce que j'aime, ce que j'ai fait ce matin-là. Dans le silence de l'église déserte, une dame en manteau rouge est apparue d'un pas volontaire, à l'évidence une habituée du lieu. Peut-être même y est-elle liée. Je l'ai saluée, et elle s'est soudain arrêtée en me dévisageant, me demandant finalement si j'étais l'auteur qu'elle croyait reconnaître. Je le sais, vous êtes partout, et je vous rencontre avec bonheur très régulièrement dans les lieux et les circonstances les plus improbables. Dans le métro, comme dans les avions, partout en France comme à l'étranger, surgissant d'un palais vénitien, au fin fond d'une forêt, dans les halls du building new-yorkais, au coin de ma rue, ou dans une église à l'aube, vous venez à ma rencontre après m'avoir lu. Vous me connaissez et je vous découvre. C'est toujours extrêmement fort pour moi. Cette dame dégageait l'énergie de ceux qui ont quelque chose à faire, une belle volonté aussi. Elle a eu des mots très sobres et touchants au sujet de mes livres. Je l'ai remerciée et nous nous sommes quittés. La célébrité n'a jamais été mon but, mais votre attention me bouleverse. L'apparition d'une lectrice, alors même que j'étais tout entier dans le théâtre de mon roman, m'a fait l'effet d'un cadeau. Un encouragement à donner mon maximum, par respect pour ce que vous et moi partageons. Où que je sois, quelle que soit l'heure, vous n'êtes jamais loin. J'ai trouvé formidable que la seule personne présente dans ce lieu précis soit l'une de celles que j'espère emporter dans mes histoires. Magnifique hasard. Mais peut-être pensez-vous la même chose que moi du hasard. J'espère que cette dame lira ce livre et qu'elle saura ce qu'elle a représenté pour moi ce matin-là. Chère madame, je vous remercie sincèrement d'avoir été là. Je dois à présent vous raconter pourquoi ce livre me tient tant à cœur. Tout a commencé au siècle passé. Si, à la fin des années 1990, lorsque l'une des personnes avec qui je travaille dans le cinéma achète un pied-à-terre dans le centre historique de Paris, non loin des quais. Moi vivant en France, alors que cet homme se partage entre Londres et Los Angeles, il me demande de suivre personnellement le déroulement des travaux qu'il s'apprête à y mener. Un chantier d'importance, destiné à réunir deux petits appartements au dernier étage et un autre juste en dessous, qui doit fusionner pour former un luxueux duplex. Je l'ai aidé à travers les démarches légales, notamment celles liées à ce que lui proposaient les architectes. Ce fut une fonction assez désagréable, pendant laquelle je n'avais ni le plaisir d'être avec lui, ni le bonheur de pratiquer les métiers que j'aime. Des formulaires, des questions administratives auxquelles je n'avais jamais la réponse. Pourtant, cette corvée m'aura valu un privilège qui constitua l'étincelle première de ce livre. La loyauté n'est décidément jamais un mauvais chemin. En abattant une des cloisons, les ouvriers ont mis au jour une pièce secrète. Elle n'était pas très grande, poussiéreuse, et ne contenait qu'une petite table bricolée, un tabouret rudimentaire, des étagères vides et une vieille bouteille encore à moitié pleine d'un liquide sombre. L'endroit avait été oublié, sans doute après la disparition de celui qui l'avait créé, sans en transmettre le secret. Le mécanisme d'ouverture était basique, mais astucieux et extrêmement bien exécuté. Le panneau coulissant avait fini par être recouvert d'une couche d'enduit, puis d'une succession de papiers peints décoratifs. Vous imaginez sans peine ce que cette découverte a éveillé en moi. Pourquoi cet espace avait-il été aménagé? Par qui? Pour protéger? Pour cacher? Tellement de possibilités. J'ai aussitôt demandé la permission de mener l'enquête avec l'aide de spécialistes. Nous avons réussi à remonter la piste des anciens propriétaires sur plusieurs siècles. Mais aucune de leurs activités ne laissait supposer la nécessité d'une pièce clandestine. Les meubles et le bois dont ils étaient faits nous ont permis de dater cette cage secrète entre 1750 et 1800. La bouteille constitue un indice particulièrement utile, puisqu'elle fut expertisée par une sommité des flaconnages comme datant des alentours de 1791. Nous nous sommes beaucoup amusés à imaginer celui qui avait pu l'abandonner là. Mais malgré mes tentatives insistantes, parfois joyeusement tordues, personne n'a eu envie de goûter à son contenu. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un vin cuit, assez proche du Porto, mais on ignore ce que le propriétaire de cette planque a pu faire dans ce lieu. À ce jour, le mystère reste entier. La façon dont cette porte invisible avait été fabriquée m'a tout de suite interpellé. Le mécanisme n'avait rien de manufacturé ou d'industriel. Nous étions présents d'un appareillage réalisé exprès, du sur-mesure. C'est alors que Vincent Cavel s'est esquissé dans mon esprit. L'idée d'un homme spécialiste de la création des passages dérobés m'a immédiatement enthousiasmé, et déjà m'a changé, car je vis depuis avec un nouveau principe de vie. Quand tu t'appuies sur un mur, demande-toi toujours ce qui se trouve derrière. Je me suis documenté sur les passages secrets, leur histoire, leurs usages. C'est un univers fascinant, qui dépasse de loin la caricature qu'en ont faite les films ou les séries produites à la chaîne. J'ai imaginé un homme dont le travail consisterait à créer ces mécanismes extraordinaires, jouant sur les illusions. Peu à peu, Vincent s'est étoffé. Naturellement, je l'ai imaginé vivant à la fin du XIXe siècle, en Europe, parce que c'est historiquement l'âge d'or des passages secrets qui enflamme mon imagination. Lorsque par la suite, j'ai progressivement approfondi ma connaissance de cette époque, j'ai été littéralement frappé par sa richesse, mais aussi par les étonnantes similitudes qu'elle présente avec la nôtre. J'ai découvert une période qui allait devenir bien plus qu'un décor de mon intrigue. 1889, l'exposition universelle. La fin du siècle se profile. Sur quelques années, s'opère un basculement profond de notre civilisation, qui préfigure et conditionne ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à cette époque précise que notre monde va prendre le premier grand virage qui l'amène où nous en sommes à présent, fonçant dans le mur ou au bord du précipice, selon le point de vue. Étudier ces années m'a permis d'y découvrir bien davantage que les images d'Épinal réductrices que nous en avons trop souvent. D'autant qu'en ce temps-là, la photo n'était pas très répandue et le cinéma n'existait pas encore. On ne trouve pas beaucoup d'images pour restituer facilement la réalité. Il faut chercher, et pas en trois clics. Les réponses qui valent la peine ne viennent jamais facilement. Vous qui me lisez savez à quel point l'aspect humain est essentiel pour moi. C'est d'abord sous cet angle que j'ai été impressionné par ces années-là. Les gens étaient confrontés à des révolutions technologiques permanentes qui les déstabilisaient et remettaient en cause leur mode de vie. Ils affrontaient le développement urbain qui remodelait complètement leur cadre de vie, et pas uniquement à Paris. La société était fracturée par des inégalités sociales flagrantes, creusant des fossés entre les individus pourtant supposés être égaux selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vigueur depuis un siècle exactement. Les nouvelles richesses étaient loin d'être partagées. Grèves, révoltes et affrontements civils faisaient l'actualité, sans parler des guerres récentes. Derrière le faste spectaculaire d'événements passionnants, se dessinait en creux un désarroi moral, une peur de l'avenir, et pour beaucoup, la crainte d'être les laissés pour compte d'un futur promis comme radieux. C'est à cette époque que tout a vraiment commencé à s'accélérer, entre la révolution industrielle, le développement des transports et de celui des communications. Déjà, les politiques perdaient peu à peu la main au profit des puissances économiques émergentes pour qui tout n'était qu'intérêt et nouveau marché. Le tout sous la menace d'attentats, anarchistes à cette époque, qui inquiétaient et déstabilisaient. Ce tableau ne vous rappelle rien ? J'ai été stupéfait par les similitudes avec ce que nous vivons actuellement. Je n'ai eu aucun mal à me glisser dans la peau d'un homme qui se questionne sur le sens du monde en cherchant à protéger ceux qu'il aime devant un avenir incertain face à des enjeux qui le dépassent. Il ne s'agissait pas pour moi de vous proposer une visite guidée touristique en costume historique. Cela ne m'intéresse pas. Il était question de suivre les aventures d'un individu confronté à ses limites dans un univers dont il découvre d'autres réalités, aussi bien positives que négatives. Pendant des années, je n'ai cessé de me documenter, de visiter, de rencontrer, pour tenter d'approcher le ressenti de l'époque et les savoirs que je comptais évoquer. Voilà 4 ans, devant la masse de documents à traiter, et poussé par l'envie de vivre cette aventure d'un peu plus près avec notre fille, Chloé, je lui ai proposé de prendre en charge la gestion de la documentation. Elle s'est jetée à l'eau sans hésiter. Nous avons cherché et découvert ensemble, avec Pascal et Guillaume qui n'étaient jamais loin. Elle a lu énormément d'ouvrages de référence, écumer des fonds d'archives, récupérer des pièces rarissimes, arpenter les musées, les expos et les lieux de toutes sortes avec moi. Je lui posais des questions impossibles dont elle devait trouver les réponses dans une jungle de données les plus solides possibles. Je prends la réalité au sérieux. Elle m'a aidé à pousser le plus loin possible les recherches nécessaires pour ne pas vous tromper, même si nous sommes dans un roman. Tout en me permettant de me consacrer à la chose la plus importante dans une histoire, la vérité humaine des personnages. C'est le dénominateur commun que je défends dans tous mes livres. Durant toutes ces années, à mesure que j'avançais, le sujet m'a de plus en plus passionné. J'y trouvais l'occasion de vous parler d'autres trésors que ceux qui brillent et de vous entraîner vers la littérature qui m'a donné envie de lire, puis d'écrire. Celle des conteurs, de Dumas, Verne, Hugo, Dickens, Kipling, pour n'en citer que quelques-uns. Celle d'auteurs racontant de vraies histoires, qui nous font rêver, sans oublier de nous parler de ce que nous sommes et de ce que nous éprouvons. Les écrivains de cette trempe ne parlent pas d'eux, même s'ils n'oublient pas d'instiller leurs convictions profondes dans leurs récits. Leur vie n'est pas leur sujet, même si elle en constitue la matière. Eux n'ont pas besoin de lecture obligatoire pour durer. Je ne me considère certainement pas comme leur héritier, mais bien plus modestement, je marche vers la lumière qu'ils ont allumée en moi. Je cours après ce plaisir d'éprouver, dans tous les registres, ce qui fait le plus fort et le plus beau de nous-mêmes. Que ce roman soit l'occasion de leur rendre un hommage aussi affectueux que respectueux. Distraire n'est jamais une fin en soi, et j'ai l'espoir que mes livres sont un peu comme des fables. Les questions qu'affronte Vincent doivent être les nôtres aujourd'hui. L'une d'elles surtout. Que faisons-nous de ce que nous savons? Cette interrogation n'en finit pas de résonner en moi. En étudiant les rouages de cette époque révolue pleine d'enseignements, mais surtout en vous fréquentant en tant qu'homme ou en tant qu'auteur, je mesure pleinement les talents ne demandant qu'à s'épanouir et l'énergie qui se déploie lorsqu'elle n'est pas étouffée. Chaque jour, autour de moi, je suis témoin des chances manquées comme des miracles accomplis. Toute existence porte une part de la vérité qui conditionne notre devenir en tant qu'espèce. En prendre conscience est une véritable révolution intime. Je vous renvoie au paragraphe de citation en ouverture de ce livre. Selon votre cœur, soyez prêt à servir ou à résister de toutes vos forces, jusqu'à combattre. N'ayez pas peur d'imaginer. Aucun chemin n'est interdit. Les plus beaux sont encore secrets, et le meilleur de notre âme est la seule clé qui libère les possibles. Je m'attache à servir les miracles. Dans ma vie privée, je suis engagé sur bien des fronts, non pas pour me composer une image médiatique comme le veut l'époque, mais parce que rien ne remplace l'action. Je déteste les fausses connivences, je n'apprécie pas ceux qui truquent et instrumentalisent vos sentiments ou les miens. Chaque fois que je me présente à vous, à travers mes textes ou lors de nos rencontres, dans les réponses que je vous adresse le plus souvent possible, je ne joue aucun rôle. Dans le temps que vous m'accordez, je vais continuer à vous présenter des histoires qui non seulement me touchent, mais qui portent ce que j'éprouve. L'espoir et l'envie, notamment. Dans cette époque de produits, j'espère être l'une de vos authentiques réserves d'imaginaire affectif. Nous commençons à nous connaître. Si vous m'y autorisez, je ne veux pas être un produit de consommation, mais devenir le compagnon de vos moments d'évasion et d'émotion. Je suis à votre disposition. Alors je vous remercie d'être là, vous et ceux avec qui je trace ma route. Je souhaite ici remercier particulièrement Thomas, Hervé, Tiphaine, Malik, Jean-François, Martin, Willem, pour m'avoir permis de descendre très profond ou de monter très haut lors des recherches autour de ce roman. Merci d'avoir mis votre passion au service de mes idées, en me faisant ramper, grimper, creuser jusqu'à pas d'heure. Pour info, je n'ai pas réussi à sauver ma tenue. Merci au personnel des institutions qui gèrent les archives de notre pays, particulièrement la Bibliothèque nationale de France et le Service historique de la Défense pour leur inestimable travail de mémoire. Ma profonde gratitude aux équipes de Flammarion. Avec vous, le métier d'écrivain n'a rien de solitaire. Qu'il s'agisse de moments humains réjouissants ou d'une efficacité professionnelle que j'apprécie chaque jour, avancer avec vous est une motivation. Merci à toi, Anna, pour cette alliance unique d'esprit, d'écoute, d'élégance humaine et de spontanéité réjouissante. Merci à Patrice, Bruno, Vincent, François, Sophie, Soizic, Marie, Florence, Yves et Eric. Vous êtes tous de vraies personnalités dont je savoure les particularités et les richesses. Mention spéciale à notre exceptionnelle Béatrice. Mon affection à mes proches, famille, alliés, amis, que je ne vois pas assez, mais qui même sans le quotidien qui me manque, m'aide à tenir et à savoir qui je suis. Merci à toi, Guillaume, pour ce regard vif et sans concession qui se conclut toujours par un sourire. Nous avons rendez-vous pour beaucoup de choses et je n'attends que ça. À toi, Chloé, délicieuse petite terreur au cœur immense. J'ai adoré t'entraîner dans cette aventure et la partager avec toi. Merci pour tout ce que tu as donné et trouvé. La rue Chabanais restera une légende, mais par bonheur, les vendeurs de perches à selfie ne figuraient pas parmi les petits métiers de l'exposition universelle. Ce roman est un lien de plus entre nous. C'est beau. Mais maintenant, il est l'heure d'aller promener le chien. Merci à toi, Pascal, d'avoir fait la place à notre petite, d'être l'ange gardien de nos projets. Quand je pense que si je n'avais pas redoublé, on ne se serait jamais rencontrés. J'en ai des frissons de peur rétrospective. Tu es mon hymne à l'échec scolaire. Je sais, ça ne sonne pas vraiment comme un compliment, et pourtant... Ma plus profonde reconnaissance aux lectrices, lecteurs, libraires, documentalistes, qui me suivent et me témoignent leur confiance. Merci de vos signes, de vos engagements. Merci de m'associer au temps fort de votre vie. Merci de vos messages et de vos lettres auxquelles je réponds autant que je peux. Parmi tant de belles rencontres que vous m'offrez, une pensée particulière pour Isabelle et Jean-Luc, qui se marient au moment même où j'achève ces pages. Pour Noémie, qui a fait tant de kilomètres pour me dire la jolie place que je tiens dans son histoire. Pour Françoise, qui me propage avec une ampleur peu commune auprès de celles et ceux qui ont le moral en berne. Derrière chacun de ces prénoms, derrière chacune de nos rencontres, il y a des histoires dont je garde la trace au plus profond de moi. Et enfin, merci à toi qui écoutes ces pages. Ma vie, comme ce livre, est toujours entre tes mains. Où que vous soyez, quelle que soit l'heure, votre bien dévoué. Gilles. PS. Si quelqu'un veut venir s'asseoir en haut des marches pour regarder la ville avec de la hauteur, je suis partant. Ce sera moi le monstre.